Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour Bamako, vous écoutez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Je suis Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de mon émission Zone de Contact. Au programme aujourd'hui, une université zimbabwéenne proposera des cours de russe et l'Afrique du Sud envisage de quitter la Cour pénale internationale. Moscou a accueilli le Forum international Russie-Afrique sur les technologies de l'information. Des participants ont exprimé au micro de Spoutnik Afrique leurs impressions et leurs attentes à 3 mois du sommet Russie-Afrique. Paris a vivement critiqué le partenariat militaire entre Bamako et Moscou. Le vice-président de la Commission de la Défense et de la Sécurité du Conseil de Transition au Mali réagira à notre micro aux critiques françaises. La Tunisie souhaite intégrer les BRICS. Un économiste malien analysera les dessous de cette candidature tunisienne. La souveraineté des pays africains passe par la conquête spatiale. Le président de l'Agence sénégalaise d'études spatiales nous dira comment atteindre cet objectif et de quelle façon la coopération avec la Russie peut y contribuer. Des cours de russe seront lancés au Zimbabwe. L'Université d'État des sciences appliquées de Manicaland, à Mutare, la 4e plus grande ville de ce pays africain, a décidé de proposer l'enseignement de cette langue à partir du prochain semestre. L'annonce a été faite par le professeur Albert Chawanda, vice-chancelier de l'établissement lors du Forum international Russie-Afrique sur les technologies de l'information. Monsieur Chawanda a fait savoir que l'instauration de ce cours de russe dans l'enseignement supérieur n'est pas un fait anodin. Celui-ci reflète le haut niveau actuel d'interaction entre la Russie et le Zimbabwe. Pour rappel, Harare a récemment souhaité bâtir un monument commémorant la victoire de l'URSS sur le nazisme. Lors de la période soviétique, Moscou a formé de nombreux combattants zimbabwéens luttant pour l'indépendance de leur pays. Pour enseigner la langue de Tolstoï, Dostoïevski et Pushkin, Harare pourra compter sur des professeurs zimbabwéens qui ont étudié en Russie. La Cour pénale internationale n'a plus la cote en Afrique du Sud. Le Congrès national africain, le parti au pouvoir, a étudié la possibilité de retirer son pays de cette institution. Kopeng Obed Bapela, vice-ministre sud-africain de la gouvernance coopérative et des affaires traditionnelles, a déclaré à Spoutnik qu'il considérait cet organisme comme un outil d'instrumentalisation occidentale. Ce n'est pas la première fois que Pretoria songe à quitter la Cour pénale internationale. En 2016-2017, lorsque le président soudanais de l'époque, Omar Hassan Ahmed El-Béchir, s'est rendu en Afrique du Sud, les autorités ont refusé de l'arrêter en dépit d'un mandat d'arrêt émis à son encontre. Pour rappel, en août prochain, Moscou accueillera le sommet des BRICS qui réunira tous les dirigeants des pays membres de l'organisation, y compris le président russe Vladimir Poutine, visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. L'envoyé sud-africain auprès des BRICS, Anil Souklal, avait déclaré dans une précédente émission à notre micro que Pretoria était prête à accueillir Vladimir Poutine. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique à Bamako. Je vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Moscou a accueilli les 13 et 14 avril le Forum international Russie-Afrique sur les technologies de l'information. Il avait pour thème les technologies numériques comme moteur du développement de l'État et de la coopération internationale. Les participants ont discuté des projets en cours et des principales tendances en matière de transformation numérique, ainsi que des perspectives de coopération entre la Russie et l'Afrique dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Au micro de Spoutnik Afrique, des représentants de divers pays africains ont livré leurs impressions et leurs attentes à l'issue de l'événement, dont João Federico Gomes de Barros, président du conseil d'administration de l'autorité de régulation nationale de la Guinée-Bissau. Écoutons-le.
Quelles sont vos attentes de ce forum aujourd'hui, de votre participation dans ce forum ici?
Bon, la première chose, c'est qu'on voulait envoyer notre remerciement pour l'organisation du forum et pour le gouvernement de la Russie qui nous invitait, Guinée-Bissau, pour participer dans cet event de forum. Nous sommes très contents et très honoreux pour participer dans cet forum. Et qu'est-ce que nous attendons sérieusement de cet forum? C'est pour partager l'expérience sur la transformation digitale. Dans le monde maintenant, tous les processus dans ces moments, ça passe pour la digitalisation. Tous les pays qu'il y a maintenant plus d'avance dans les plusieurs secteurs, c'est qu'ils ont employé les technologies d'information et communication, la digitalisation. C'est pour cela que Guinée-Bissau est là, pour attendre, pour voir l'expérience des autres pays, pour que nous, on puisse prendre l'expérience des autres pays, aussi de la Russie, pour que nous, on puisse implémenter dans notre pays pour qu'on puisse avancer. Surtout dans le domaine de transformation digitale, parce que notre gouvernement s'est engagé sérieusement pour passer de tout le processus analogique pour le processus digital. Ça, c'est notre engagement. C'est pour cela, ici, tout le monde, on discute about le processus de digitalisation. Et là, nous sommes très attentifs pour recevoir, pour connaître l'expérience des autres pays, aussi de la Russie. Et dans ce cas, on peut profiter de cette expérience pour qu'on puisse appliquer dans notre pays, pour qu'on nous, on peut avancer dans le domaine de transformation digitale.
Et vous savez que dans 3 mois déjà, il y a un sommet Russie-Afrique, on attend tous. Et donc ça va se dérouler cette année dans le nouveau contexte géopolitique, dans le monde multipolaire qui émerge. Quelles sont vos attentes de ce sommet et auxquels défis nos pays confrontés aujourd'hui dans ce nouveau contexte?
Je pense qu'il y a un contexte géopolitique dans ce moment un peu compliqué. J'espère que toute la situation va être réglée de forme diplomatique dans le futur et que tout le monde, tous les pays, on peut continuer à coopérer pour développer notre pays. C'est que nous, en particulier Guinée-Bissau, on a toujours les anciens et bonnes relations avec la Russie. Et nous, toujours, nous sommes dans le côté de la Russie parce que quand on regarde le passé, la Russie a aidé beaucoup Guinée-Bissau dans le passé. Et dans ce sens, nous, on espère que la Russie va être toujours en position d'avantage pour que la situation dans le monde puisse être un peu équilibrée. C'est ça qu'on pense. Parce que qu'est-ce qu'on regarde ici? Qu'il y a les situations un peu déséquilibrées dans le monde. Il faut que le monde puisse marcher dans les positions équilibrées, dans la balance. C'est ça. Et qu'on peut faire la coopération gagnant-gagnant pour tous les pays. Ce n'est pas l'autre pays comme l'esclave, l'autre pays comme la... Il faut que tous les pays, soit les petits pays, soit les grands pays, nous sommes tous dans la même position.
Comme vient de nous le dire M. Gomez de Barros, il est venu à Moscou pour permettre à son pays de prendre le virage de la transformation digitale. Pour rappel, la transition digitale consiste à remplacer les processus manuels existants par toutes les dernières alternatives numériques. Et la Russie est bien placée dans ce domaine. Les services gouvernementaux sont disponibles en ligne à tout moment via la plateforme Gosuslugi. Elle permet à chaque citoyen de faire des démarches administratives à distance sans avoir à se déplacer et ainsi à gagner du temps. Outre la plateforme Gosuslugi, les municipalités russes mettent à disposition les mêmes services. Il est par exemple possible de prendre rendez-vous chez le médecin en un clic depuis chez soi. Cette expérience russe dans le domaine de la digitalisation des services de l'État compte pour le Sénégal. Dakar a lancé le plan Sénégal numérique 2025 qui vise à transformer et à booster son économie. Ndiaga Bey, le premier conseiller de l'ambassade du Sénégal à Moscou, nous a confié son souhait d'une coopération plus poussée afin de parvenir à réaliser cette stratégie élaborée dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent.
Que vous attendez de décisions et des présentations qui ont été faites aujourd'hui?
Bon, d'abord, nous nous réjouissons de prendre part à ce forum qui est très important, surtout en perspective du prochain sommet Russie-Afrique. Nous avons déjà une délégation sénégalaise qui doit faire une présentation tout à l'heure. Ça va dans le sens du thème qui porte sur la transformation digitale comme moteur de développement. Et comme vous le savez, l'expertise russe n'est plus à démontrer, qui est reconnue partout dans le monde, et que nous aussi, dans notre volonté de diversifier nos partenaires, nous avons une vision, une stratégie qui s'appelle le Sénégal numérique SN2 à l'horizon 2025. C'est une stratégie qui est mise en place. Nous nous sommes fixés des objectifs dans le souci de moderniser notre secteur public et privé. Et sur ce, nous attendons une collaboration plus poussée avec la Russie dans ce domaine pour tirer profit des avantages de ce partenariat.
Quelles sont les spécificités de la coopération avec la Russie dans ce domaine?
Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'expertise russe est reconnue de tous. Tout le monde sait que la Russie est un géant dans le domaine numérique et de la digitalisation. Tout à l'heure, j'ai suivi la présentation du représentant de la ville de Moscou. J'ai été impressionné par ce que j'ai vu. Et comme vous le savez, nous aspirons à ces niveaux de développement. Donc, on est venu pour tirer profit autant que faire se peut de ces rencontres. Pourquoi pas s'inscrire dans une logique de nouer des partenariats, si possible. On a des experts qui sont là. Après, c'est à eux de voir ce qui les intéresse.
Il n'y a pas de domaine spécifique qu'elle, par exemple, cherchait de digitaliser l'agriculture ou l'économie, non? Il n'y a pas tel domaine qui sont premier lieu pour vous.
Déjà, nous avons une stratégie qui englobe tous les domaines. Parce que, comme je l'ai dit, la stratégie, c'est le référentiel. C'est le référentiel. Donc, l'agriculture est dedans, la formation, l'éducation, tous les domaines de l'administration sont impliqués dedans. Donc, eux, ils vont voir.
Et vous avez mentionné aussi le sommet Russie-Afrique qu'on attend tous. Il reste que 3 mois, il me semble. Donc, quelles sont vos attentes de ce forum qui va avoir lieu dans ce nouveau monde multipolaire dont on parle aujourd'hui beaucoup? Quelles sont vos attentes?
Nous préparons le forum comme tous les autres pays africains. C'est le deuxième sommet. Je pense qu'il faut être plus pratique, plus pragmatique. C'est ne plus s'inscrire dans les logiques des discours et autres, mais aller vers l'essentiel.
Le savoir-faire russe dans le domaine du numérique est en effet reconnu. L'entreprise russe Yandex, concurrente de Google, en est le meilleur exemple. Elle ne se limite pas seulement à chercher des informations sur Internet. On peut par exemple commander un taxi ou se faire livrer à domicile de la nourriture des restaurants. Sous la marque Yango, Yandex est déjà présent au Cameroun, au Ghana, en Côte d'Ivoire, en Zambie, en Angola, au Mozambique, en Algérie et au Sénégal. Wakan Diaye est directeur technique de Sénégal Numérique. À notre micro, il a évoqué les objectifs du projet Sénégal Numérique 2025 et ses attentes du prochain sommet Russie-Afrique.
Pourquoi vous êtes arrivé ici à Moscou pour ce forum? Quelles sont vos attentes de cette conférence consacrée au domaine numérique?
D'abord, je fais partie de la délégation sénégalaise. Aujourd'hui, qui a été constituée par notre ministère de tutelle. Le ministère chargé du numérique. Je suis de l'agence de l'informatique de l'État qui a été transformée actuellement en Sénégal numérique. Et l'objectif pour nous, c'est de venir voir qu'est-ce qui se fait ici au niveau du pays. Bon, nous savons que la Russie est très, très, très avancée sur le domaine de la technologie. Et je pense que cette ouverture mondiale permettra aux pays africains de vraiment se départir un peu de cette domination des GAFAM, et de voir ce qui se passe ailleurs. Parce que, vous savez tous, nous avons envie aujourd'hui quand même de tendre vers la souveraineté numérique. Et nous savons aujourd'hui ici, au niveau des technologies émergentes, la Russie a fait pas mal de choses concernant la plateformisation de son industrie. Et que nous savons aujourd'hui que plus de 80% de logiciels aujourd'hui utilisés au niveau du pays en Russie, c'est des logiciels russes. Et ça, c'est intéressant pour nous. Et aussi savoir que dans cette coopération, ça peut permettre aux pays africains de pouvoir de gagner du temps. S'il y a, à travers cette coopération, de pouvoir profiter de cette technologie et vraiment pouvoir les utiliser pour que quand même l'Afrique puisse décoller au niveau des technologies.
Et c'est la première fois que vous visitez la Russie?
Oui, c'est la première fois et je suis très surpris de voir que c'est un pays très sympa. La population est très sympathique. Vous savez, surtout nous, les francophones, hein, on a une autre image de la Russie. On nous a toujours dit que c'est un pays militarisé, les gens sont très durs, sévères, etc. Et maintenant, on se rend compte que voilà, c'est des humains comme tout le monde. Quoi. C'est sympathique. Moi, en tout cas, je suis très surpris du niveau de développement de sympathie des gens, parce que ça fait 24 heures que je suis là, et j'ai côtoyé quelques personnes, si je demande des renseignements et tout ça, ils me les donnent, les gens sont bien, vraiment. Je crois que c'est l'heure, cette ouverture vers les autres pays, vraiment c'est quelque chose d'intéressant qui nous donne une autre vision de la Russie. Et vraiment, je suis très heureux de venir dans ce pays-là. Et c'est sûr et certain que je serai un porte-parole aussi pour expliquer à mes concitoyens que l'image qu'on donne, vraiment, c'est pas ça. C'est un pays vraiment sympa.
Vous avez déjà mentionné que la Russie dispose d'un système des services numériques très développé. Vous le savez bien, mais est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de voir les services concrets? Parce que, par exemple, ici, on est à Moscou et la ville de Moscou est mondialement classée comme une ville, comme un mégapole, un des plus confortables sur le plan numérique. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de voir tous ces services ou vous allez encore le faire?
Bon, dommage que je serai là juste 72 heures, parce qu'on rentre après-demain. Mais bon, je connaissais quelques plateformes, hein, comme Yandex quand même, à partir de l'Afrique, quand même. Parce que moi, je fais beaucoup de recherches, et surtout au niveau de la souveraineté, parce que nous savons aujourd'hui que la Russie a voulu se départir de cette domination des grandes firmes américaines. Et à partir de là, on a vu, j'étais très surpris de voir, par exemple, que des taxis Yandex, parce que moi je croyais que c'était un cloud, mais j'ai vu des trottinettes Yandex, j'ai vu aussi des robots dans la rue, etc. Donc c'est une belle découverte. Et en tant que, en tout cas, Africain, moi je pense que cette collaboration-là va nous permettre vraiment d'aller très vite. Et surtout sur les nouvelles technologies émergentes. Peut-être j'aurai l'occasion de voir, parce que je sais que sur le domaine de l'agriculture aussi, voilà, la Russie s'est très développée dans ce sens. Et sur la biotechnologie, peut-être on aura la chance de voir un peu ce que vous avez fait sur la biotechnologie, sur les biotechnologies vertes, jaunes, grises, tout ça, végétales. Ça nous permettra aussi de pouvoir quand même se développer dans ce sens-là.
Vous avez dans votre portable une application Yandex pour le taxi?
Malheureusement, j'ai essayé de... Si, je l'ai téléchargé hier. J'ai téléchargé hier lorsque je suis arrivé et je compte l'utiliser, hein, parce que j'ai envie d'aller faire un peu de shopping quand même. Et c'est sûr et certain que je vais l'utiliser.
Parfait. On a interviewé récemment aussi en Sénégalais avec qui on a parlé de la souveraineté, parce que c'est un sujet très populaire actuellement dans le monde entier et en Afrique. Et ce collègue à vous, ce Sénégalais, il a dit que en matière de souveraineté dans plusieurs domaines, c'est l'économie qui est importante. Cela veut dire que s'il y a des services qui coûtent moins cher à l'Afrique et à votre pays en particulier, cela veut dire qu'on peut se permettre d'acheter ces technologies, ces services de l'extérieur. Mais quand même, vous savez, la souveraineté prévoit qu'un acteur, un pays entier ou une région dispose de l'accès libre à ces technologies. Est-ce que vous êtes d'accord que si des technologies coûtent moins cher, ça vaut la peine de les acheter, ou plutôt au niveau du pays et pour la souveraineté, c'est mieux quand même de produire eux-mêmes ces technologies à l'intérieur du pays et ne pas dépendre des acteurs extérieurs?
Bon, vous savez, cette question de souveraineté, c'est un slogan qu'on utilise beaucoup, surtout les politiciens. Mais en matière de souveraineté, il faut déjà être libre. C'est comme la colonisation numérique que nous vivons aujourd'hui. Parce que vous ne pouvez pas parler de souveraineté si vous n'avez pas une industrie numérique. Vous ne pouvez pas parler de souveraineté si vous dépendez de la domination de ces plateformes numériques qui existent dans ce monde. Aujourd'hui, l'Internet est géré par qui? C'est par les Américains. Aujourd'hui, on dit que c'est une association l'ICANN à but non lucratif, mais on sait qu'il y a des services secrets américains derrière. Les serveurs de l'Internet se trouvent où? Il n'y en a pas un seul serveur qui se trouve en Afrique. Donc, on ne peut pas parler de souveraineté. Nous, aujourd'hui, nous n'avons pas d'industrie. Nous n'avons pas de routeur, nous n'avons pas de switch, nous n'avons pas de téléphone, nous n'avons absolument rien. Donc dans ce cadre-là, on ne peut pas parler de souveraineté. Maintenant, c'est vrai qu'on peut essayer maintenant d'un pays comme la Russie. Hein. Par exemple, moi, là, j'attends la Russie. C'est de nous accompagner dans ce sens-là, que nous puissions mettre le socle de la souveraineté. C'est quoi ? Nous accompagner pour que nous puissions, au niveau de l'Afrique, fabriquer nos propres équipements. C'est la base d'une souveraineté numérique. Si on n'a pas d'équipement, on n'a pas de cloud national, on n'a pas ces infrastructures numériques qui nous appartiennent, si c'est des infrastructures exportées ou on n'a pas la maîtrise de ces équipements, on ne peut pas parler de souveraineté. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a besoin de se développer, on a besoin, c'est une relation de confiance peut-être qui va se poser, mais c'est très important quand même que l'Afrique puisse avoir, être formée, accompagnée, pour que nous puissions vraiment s'insérer sur l'industrie vraiment de technologie. Surtout aujourd'hui, on parle de l'industrie 4.0, l'industrie des IT. Voilà, moi je pense que c'est l'occasion de profiter sur ce forum, être accompagné sur l'intelligence artificielle, sur les NBIC, les NBIC, hein, pour que nous puissions aujourd'hui, demain, être nous aussi des champions du numérique.
Si le Sénégal s'est lancé dans la numérisation de son économie à travers un programme ambitieux, d'autres États africains souhaitent suivre la même voie, avec des besoins différents. C'est le cas de l'île Maurice qui vise à tirer parti de l'expérience russe dans le domaine de la numérisation pour moderniser ses services gouvernementaux. Keshwar Yanki, ambassadeur de la République de l'île Maurice à Moscou, nous en dit plus au micro de la correspondante de Spoutnik Afrique.
Nous parlons aujourd'hui de la digitalisation dans les différents domaines.
Exactement.
À quel domaine vous pensez que la Russie peut aider à l'Afrique en premier lieu ? Dans quel domaine ?
En premier lieu, c'est aider le gouvernement africain, les différents gouvernements, pour devenir plus efficients en termes de leurs transactions, de paiement, et mettre tout en ligne. Et aider aussi l'éducation, les différentes écoles, pour pouvoir, disons, partager leur savoir-faire à travers les différentes technologies digitales.
Et vous savez, dans ce monde de digitalisation où on va aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les conversations sur la monnaie unique sont faisables ? C'est possible à un moment qu'on
Non, difficile. C'est difficile pour vraiment parler de la monnaie unique pour l'instant. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais plus important, il faut commencer petit à petit parce que je crois que les gouvernements africains ont besoin de l'aide pour pouvoir ce qu'on appelle le leapfrogging, pour pouvoir finalement gagner la bataille de la digitalisation.
D'accord.
Okay? Parce qu'il y a l'éducation, il y a la santé. Il faut commencer par le gouvernement. C'est le gouvernement qui va vraiment promouvoir la digitalisation en Afrique. Et puis le secteur privé. Et le secteur privé aussi doit connecter avec le secteur privé africain.
Selon M. Yanki, la République de Maurice souhaite prendre le train du numérique dans le domaine des transactions bancaires et de l'éducation. En Russie, de tels dispositifs sont en place. Il y a le système de transactions rapides qui permet des transferts d'argent de manière instantanée. À titre de comparaison, un tel dispositif n'existe pas en Europe. Par exemple, en France, lorsque vous effectuez un virement bancaire, il faut attendre un peu pour voir l'argent envoyé crédité sur le compte du destinataire. Dans le domaine de l'éducation, à Moscou, un carnet de correspondance électronique a été mis en place. Il permet aux parents d'être informés des avancées dans le programme scolaire et des résultats de leurs enfants, de même qu'interagir avec les professeurs. Pour l'élève, il peut retrouver les devoirs qu'il doit faire sur la plateforme. La digitalisation de l'Afrique intéresse les entreprises russes. C'est le cas de Deep Tech Solutions, filiale de l'entreprise russe Citronix, qui s'est lancée sur le marché africain. Lofty Elwar, qui représentait l'entreprise au forum, a évoqué à notre micro les solutions que sa société propose aux pays africains. Écoutons-le.
Vous visez maintenant les pays africains pour la coopération, pour travailler. Vous pouvez expliquer un peu pourquoi vous visez l'Afrique aujourd'hui, quels pays africains en premier temps et dans quel secteur vous pensez y engager?
On est une entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui est marine solution et solutions spatiales. C'est-à-dire c'est des solutions qui sont actuellement, qu'on les a en main déjà, qu'on peut développer avec nos partenaires. Éventuellement, on est en train de développer d'autres nouvelles solutions futures qui vont faciliter pratiquement toute la vie de nos partenaires quotidiennes, éventuellement quotidiennes, et toucher certains secteurs qui sont vraiment, vraiment névralgiques dans n'importe quel pays. Par exemple, le secteur des transports. Quand je vous parle du secteur de transport, c'est pratiquement tout le transport, que ce soit la logistique, éventuellement tout ce qui est secteur marine, naval, en général naval, et le secteur de la communication. Donc ça, c'est deux secteurs principaux. Après, on a plusieurs solutions qui peuvent toucher le secteur de la santé, éventuellement le secteur de l'agriculture et de l'administration locale. En général, les pays africains, c'est des alliés avec la Russie, donc c'est des amis depuis très très longtemps. Et il y a quand même, il y a pas uniquement des partenariats sur le secteur digital, mais ils ont déjà des partenariats sur d'autres secteurs. Mais nous, pourquoi l'Afrique? Parce que l'Afrique, les pays africains, c'est nos alliés. Et éventuellement, c'est des pays qui demandent en masse nos solutions futures, nos solutions digitales. Et c'est des pays qui veulent développer leur administration et leur secteur d'activité en digital. Éventuellement, si vous m'avez demandé de citer quelques pays. Là, actuellement, je ne peux pas vous citer un ou deux pays, mais actuellement, je peux vous dire qu'on est à pratiquement 60% de partenaires africains qui travaillent avec nous et qui veulent encore travailler avec nous. Et ça nous fait plaisir de développer ces termes de partenariat. Et voilà.
Et quels sont les obstacles pour venir en Afrique? Qu'est-ce que vous pouvez dire comme difficulté les plus grandes?
En réalité, il n'y a pas d'empêchement, il n'y a pas d'obstacle. En réalité, c'est les conditions du pays. C'est-à-dire, quand je vous dis les conditions, vous savez très très bien qu'il y a quand même une stratégie dans n'importe quel pays par rapport aux documentations, par rapport aux autorisations. Mais actuellement, on est en train de voir des solutions les plus adéquates avec certains partenaires pour pouvoir avancer et ne pas retarder le progrès ou bien l'évolution de notre partenariat ou de notre business.
Mm-hmm. Et il y a la demande, surtout dans quel secteur des pays africains, ils veulent demander venir avec la digitalisation, dans quel secteur principalement?
En fait, il y a des partenaires africains qui demandent actuellement nos solutions marines, c'est-à-dire marine, c'est tout ce qui est protection de navigation marine, tout ce qui est géophysique, marine civile. Voilà, je parle de la marine civile. Et éventuellement, ils demandent tout ce qui est monitoring, tout ce qui est exploration et géophysique sous mer, éventuellement sous rivière, parce que vous savez très très bien que maintenant il y a plusieurs ressources qui sont sous mer ou sous rivière qu'on peut pas voir. Mais là, on a une solution pour ça, c'est-à-dire dès maintenant, on peut explorer tout ce qui est richesse sous mer ou bien sous eau en général. Et on a tout ce qui est solution spatiale, c'est-à-dire on a des mini satellites qu'on fabrique localement et qu'on donne libre accès aux données à nos partenaires avec des prix quand même qui sont 10 fois moins chers que nos concurrents mondiaux. Et vous savez très très bien que aussi on a des usines de fabrication de tout ce qui est bateaux de plaisance, bateaux de navigation, éventuellement bateaux de transportation et bateaux pour l'utilisation militaire, c'est-à-dire pour rivière et pour mer, avec des systèmes très sophistiqués. Éventuellement, c'est électrique, parce que maintenant, le monde, il est en train dans le digital et être plus éco. Donc là, on est en train de développer tout ce qui est bateau, mais électrique. C'est-à-dire, dès maintenant, si par exemple, on a n'importe quel partenaire, il peut nous commander un bateau électrique juste pour une transportation sur une rivière ou sur une mer, c'est faisable. Bateau de plaisance, c'est faisable. Pour l'utilisation militaire ou gouvernementale, c'est faisable aussi.
Donc, et s'il manque de l'infrastructure dans le pays qui vous commande, Vous faites comment alors,
Avant de faire un pas de partenariat ou d'une commande pour faire, par exemple, face à un contrat de commande, là, il y a une stratégie. Donc, par rapport, on va développer avec notre partenaire une stratégie et une vérification stratégique de l'endroit et ce qu'il veut développer comme secteur, c'est-à-dire on peut lui donner le support et l'assistance nécessaire en maintenant en intimité les données importantes de chaque partenaire. Et à partir de là, on peut lui proposer la solution adéquate pour que, c'est-à-dire il peut mettre un budget, mais en même temps, il a une contrepartie qui est à long terme.
D'accord.
C'est ça ce qui est important.
Et vous avez mentionné aussi le secteur spatial. Quelles solutions vous proposez?
Bon, sur le secteur spatial, vous savez, tout est lié par un satellite, c'est-à-dire tout est lié par une connexion satellite en réalité. On a des mini, comme je vous ai dit, je vous ai mentionné au premier lieu, on a des mini satellites qu'on développe localement au niveau de la Russie. Donc, il n'y a pas de souci. Et ce qu'on a comme avantage, c'est qu'on est partenaire avec l'entreprise. Vous savez très très bien que Citronic, il est partenaire avec le groupe Sputnik. Donc, on a un accès qui est rapide et libre avec notre partenaire Sputnik par rapport à nos connexions satellitaires, nos solutions spatiales et aérospatiales.
C'est possible de venir avec ces solutions en Afrique aussi
Ben oui. Ouais.
Et il y a une demande de la part des pays africains?
Il y a une demande. Il y a une demande. Parce que là, on constate que de plus en plus, les partenaires africains, ils sont dirigés vers la digitalisation, ils sont dirigés vers la liberté d'information. Et c'est ça ce qui fait maintenant, aujourd'hui, comme vous constatez au niveau de l'événement, constatez qu'il y a beaucoup de partenaires africains qui sont intéressés, ils ont des informations qui sont précieuses par rapport à la digitalisation et tout ce qui est IT solution.
Pour l'Afrique, la Russie dispose d'un éventail très large de solutions techniques afin de l'aider à numériser son économie et ses services publics. Comme vient de nous le dire M. Elouard, sa société travaille déjà avec des pays africains qu'il n'a pas mentionnés pour des raisons de confidentialité. Les gouvernements de ces États peuvent utiliser ses services avec des coûts très compétitifs par rapport à la concurrence, notamment dans le domaine spatial. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur Maliba FM à Bamako. Je vous salue si vous venez de régler votre poste de radio sur 99.5 FM. La France a critiqué le partenariat militaire entre Bamako et Moscou lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Le représentant permanent de la Russie auprès de l'ONU, Vassili Nebenzia, a répliqué en affirmant que les pays occidentaux devraient permettre aux Maliens et aux habitants des autres pays de la région de résoudre leurs problèmes eux-mêmes avec les partenaires de leur choix. Selon M. Nebenzia, tout le monde sait que la déstabilisation du Sahel et plus particulièrement du Mali est le résultat de l'action musclée et irresponsable de l'Occident en Libye. Le diplomate a ensuite enfoncé le clou en déclarant que le Sahel n'appartenait pas aux Occidentaux. Il a souligné que son pays coopère avec le Mali à la demande de Bamako dans le strict respect des règles applicables du droit international et que ce partenariat avait déjà apporté des résultats concrets sur le terrain. Au micro du correspondant de Spoutnik Afrique, Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de la Défense et de la Sécurité du Conseil de Transition au Mali, a réagi à cette passe d'armes franco-russe sur son pays à l'ONU. Écoutons-le.
Lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, la France a critiqué le partenariat militaire entre le Mali et la Russie. À quoi l'ambassadeur russe auprès de l'ONU, Vassili Nebenzia, a réagi en dénonçant une concurrence géopolitique dans la région du Sahel qui, le Sahel, n'appartient pas aux pays occidentaux. Pensez-vous que ces critiques françaises soient justifiées?
Pas du tout. Cette critique française relève plutôt de l'hypocrisie, parce que le pays du Sahel, c'est pas une zone gardée de la France. Ce sont des pays libres, des pays qui sont libres de traiter avec qui ils veulent, de coopérer avec qui ils veulent. C'est-à-dire que notre souci, c'est quoi? La France a ses partenaires. Nous ne nous occupons pas de dicter à la France avec qui traiter. Donc nous ne voulons pas du tout que la France se mêle de nos affaires pour nous dicter avec qui traiter. Nous voyons notre propre intérêt. Si notre propre intérêt se trouve aujourd'hui dans la coopération avec la Russie, bien sûr, on va coopérer avec la Russie. Donc, nous ne sommes pas là seulement pour se soumettre, c'est pas au désidrata d'un président français. Donc, le président Assimi est très clair, surtout concernant le Mali. Il a demandé à tous les autres pays de respecter la souveraineté du Mali, de respecter les choix stratégiques du Mali et de respecter les intérêts du peuple malien. Je pense que cela est propre à tout autre pays. Et c'est cela que nous faisons.
Compte tenu que ces propos critiques sont tenus par Paris, la France, selon vous, est-elle en droit de critiquer le Mali dans le choix de ses partenaires?
Bon, je ne sais pas quels sont les critères sur lesquels la France va reposer ses critiques. La France a des partenaires souvent qui nous demandent à nous poser beaucoup de questions. Des partenaires tels que, par exemple, le Qatar. On sait que le Qatar est très impliqué dans le sponsoring du terrorisme. Le Qatar est l'un des partenaires privilégiés de la France. Aujourd'hui, nous voyons les résultats. La coopération avec la Russie a permis au Mali de stabiliser la situation sécuritaire aujourd'hui et vraiment d'apporter un grand bouffe d'oxygène à la population. Donc pourquoi nous devrions refuser cette coopération? Le problème c'est quoi? Quand le Mali voulait lutter contre les terroristes, la France a tout fait pour nous empêcher d'acquérir des armements. Alors que parallèlement, nous, on a pris la France en flagrant délit, en train d'armer des terroristes. Et d'ailleurs, depuis le 15 août 2022, on a porté une plainte contre la France au niveau de l'ONU. Cette plainte qui n'est pas encore mise sur la table du Conseil de sécurité. Donc avec la Russie, c'est un partenaire très fiable qui nous a donné ce que nous voulons pour lutter contre les terroristes. Et aujourd'hui, le résultat est là. C'est ce résultat-là qui gêne la France. Pourquoi? Parce que la France a fait 9 ans chez nous, la situation s'est détériorée et beaucoup d'enfants, de femmes, de la population malienne ont été tués. Mais en 1 an et demi seulement de coopération avec la Russie, on a pu stabiliser la situation, on a pu repousser les terroristes hors de beaucoup de nos villages, de nos contrées. On a pu libérer à ce jour plus de 1200 villages. Et il y a plus de 700 000 personnes qui ont pu regagner leur maison. Donc nous ne pouvons que dire merci à la Russie. Si la France est jalouse de ce succès, parce qu'elle sait que les autres pays qui sont dans le Sahel sont en train de suivre l'exemple du Mali et de se tourner vers la Russie, la coopération avec la Russie est beaucoup plus sincère et avec moins d'hypocrisie.
C'était Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de la Défense et de la Sécurité du Conseil de Transition au Mali. Il a commenté les récentes critiques de la France à l'ONU sur la coopération militaire entre Bamako et Moscou. Chers auditeurs de Maliba FM, vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako. Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de Contact, je vous souhaite la bienvenue. La Tunisie envisage d'adhérer au groupe des BRICS. Pour rappel, il comprend le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Selon le porte-parole du mouvement national du 25 juillet, Mahmoud Ben Mabrouk, Tunis envisage cette piste après que ses tentatives d'obtenir des financements de la part du Fonds monétaire international ont échoué. Le FMI n'est pas le seul organisme vers lequel la Tunisie s'est tournée. L'Union européenne a elle aussi rejeté les demandes de Tunis. Au sein du groupe des BRICS, la Chine a elle déjà réagi à la demande d'adhésion tunisienne. Pékin n'a rien contre une affiliation de la Tunisie au groupe économique. Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré que la recherche de nouveaux partenariats est au centre de la philosophie mise en avant par les BRICS et que Pékin continuera de défendre cet esprit d'ouverture, d'inclusion et de coopération mutuellement bénéfique. Au micro de Spoutnik Afrique, le docteur Modibo Mao Makalou, économiste et gestionnaire financier malien, a analysé les raisons qui ont poussé Tunis à frapper à la porte des BRICS.
Tunis négocie depuis plusieurs mois avec le FMI pour obtenir un prêt pour soutenir l'économie du pays. Mais le président tunisien rejette les conditions du FMI, les qualifiant de diktat de l'étranger. En effet, le FMI étant une organisation financière, on peut dire contrôlée par l'Occident, on lui reproche souvent d'être un instrument de soumission des pays endettés, même de freiner leur croissance, de préconiser des exigences économiques inadaptées pour les pays en développement, en particulier la Tunisie, et de réduire la capacité d'intervention de ces États. À votre avis, en cas d'obtention d'un nouveau prêt, est-ce qu'il y a des risques pour la Tunisie, par exemple un risque de perdre une partie de sa souveraineté économique et politique?
Tout d'abord, j'aimerais rappeler que c'est depuis octobre 2022 qu'un accord de principe avait été convenu entre le Fonds monétaire international et l'État de Tunisie sur un prêt d'un montant de 1,9 milliard de dollars US sur 4 ans. Mais en retour, évidemment, les prêts du FMI sont toujours assujettis à des conditionnalités. Et je pense que c'est ce que le président Kais Saied appelle les diktats. Et ces conditionnalités sont plutôt draconiennes à mon avis aussi, parce que il s'agit de restructurer environ une centaine d'entreprises publiques. Et c'est-à-dire que en restructurant, cela veut dire qu'on va mettre au chômage des milliers de personnes, parce que ces entreprises sont lourdement endettées. Mais il s'agit surtout aussi de mettre fin aux subventions sur le carburant, parce que la Tunisie importe beaucoup de carburant, et aussi les subventions sur les produits de première nécessité, et ce qui va être très difficile, surtout en cette période de Ramadan et en cette période de difficultés économiques et d'inflation mondiale, car vous savez, le pouvoir d'achat est attaqué partout dans le monde. Et donc, ça va être difficile pour les citoyens tunisiens de ne se passer de cette subvention pour le moment. Donc, je ne pense pas que ce soit un problème de souveraineté, parce que les conditionnalités sont connues d'avance. Mais par contre, je pense que le timing est un peu mal placé, parce que la Tunisie traverse des difficultés économiques et financières en ce moment. Sa monnaie est en chute libre. Le pays est lourdement endetté. La dette publique est constituée d'environ 80% du PIB, ce qui est assez élevé parce que les normes internationales sont de 60 à 70%. Donc, ce qui fait que les recettes de l'État vont essentiellement à payer la dette extérieure, et ce qui ne laisse pas une grande marge au gouvernement pour entreprendre des dépenses d'investissement et des dépenses urgentes pour l'amélioration des conditions de vie des populations tunisiennes.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ces critiques par rapport au FMI, que le Fonds monétaire international ne prend pas en considération certaines circonstances de certains pays, et alors vraiment préconise des choses inadaptées pour certains pays? Est-ce que vous êtes d'accord avec ces critiques?
Je pense qu'il faut regarder le contexte pays. La situation actuelle de la Tunisie est très, très délicate. Comme vous le savez, elle est placée au niveau de la Méditerranée. Et sans accord avec le Fonds monétaire international, il n'y aura pas d'aide venant de l'Union européenne ni des États-Unis, ni d'ailleurs des grands groupes privés aussi internationaux, c'est-à-dire les banques internationales. Donc, ce qui va mener une asphyxie économique et financière de la Tunisie. Donc, la monnaie va continuer à chuter, à se déprécier, et il va être difficile pour les Tunisiens d'importer, parce que les réserves de change sont en train de baisser, de s'amenuiser sérieusement. Et la Tunisie a besoin de cette bouffée d'oxygène économique et financière. Mais je pense que le FMI devrait être un peu regardant sur les conditions. On peut pas faire... c'est-à-dire restructurer ces 100 entreprises en même temps et en même temps retirer tous les subsides. Je pense qu'il faut quand même assainir la situation, rationaliser les dépenses publiques, mais il faut donner un peu de marge et une bouffée d'oxygène à l'État, parce que c'est à ce prix qu'on va maintenir la stabilité politique et la paix sociale en Tunisie, qui sont déjà compromis. Comme vous le savez, la situation politique est déjà extrêmement difficile, parce que les syndicats sont sur le pied de guerre, les partis politiques aussi, de même que la société civile. Et je pense que c'est une situation délicate qu'il faut vraiment regarder avec beaucoup de doigté.
Le porte-parole du mouvement national du 25 juillet, Mahmoud Ben Mabrouk, a déclaré que, sur fond de désaccord avec le FMI, la Tunisie envisageait de se tourner vers les BRICS. Comment voyez-vous cette perspective? Est-elle réaliste selon vous? Et potentiellement, quels avantages pour la Tunisie en cas d'adhésion au groupe des cinq?
Oui, c'est une perspective intéressante, mais pour le moment, ça ne va pas résoudre les problèmes de la Tunisie, parce que la Tunisie a besoin d'argent frais tout de suite. Et cela ne peut se faire qu'au niveau bilatéral. La Chine ne prête plus d'argent, l'État chinois, même à ses propres difficultés, ne prête plus d'argent aux États. Ce sont des investissements plutôt que la Chine finance. L'Inde, je ne pense pas qu'elle pourrait financer. Peut-être la Russie a aussi ses propres difficultés en ce moment, ses propres problèmes à gérer. Donc je pense pas que l'argent frais puisse venir des BRICS. Mais je pense que si c'est pour les investissements, je pense qu'à terme, la Tunisie, qui est un pays quand même assez bien placé au niveau de la Méditerranée, à moins qu'il y ait un accord bilatéral ou avec la Chine ou avec la Russie, par rapport à la position stratégique de la Tunisie. Donc, je pense que c'est la seule contrepartie, à mon avis, que la Tunisie pourrait obtenir une bouffée d'oxygène, d'argent frais, en contrepartie peut-être d'un port ou bien d'une façade maritime. Mais en dehors de cela, pour le moment, je pense pas qu'elle puisse obtenir le financement nécessaire pour ses besoins de trésorerie. Car vous savez, le budget d'État de la Tunisie, qui est d'environ 21 milliards d'euros, il y a un déficit d'environ 7 milliards d'euros et la Tunisie a besoin d'argent frais tout de suite.
Mais quand même, on voit une certaine tendance. Et pourquoi de plus en plus de pays, notamment en Afrique, manifestent ouvertement leur intérêt pour coopérer avec les BRICS? Est-ce un signe de l'émergence d'un monde multipolaire?
Oui, et ce sont des alternatives, parce que vous savez, nous avons, ça fait longtemps depuis la fin de l'URSS, nous sommes dans un monde où il n'y a pas d'alternative. Et je pense que la plupart des pays non occidentaux voient, en termes de blocs qui regroupent les BRICS, une alternative crédible, un autre monde, un autre bloc qui fait face à l'Occident et qui va permettre où les gens se retrouvent, où les gens se sentent à l'aise et où les gens peuvent obtenir de l'aide. Parce que on a l'impression que dans d'autres parties du monde non occidental, que l'écoute n'est pas la chose la plus favorisée par les Occidentaux. Et malheureusement, avec les gens vont être obligés de se détourner maintenant vers les BRICS, et je pense que les BRICS vont s'agrandir au fur et à mesure. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'adhésions en attente et ce sont des pays émergents et les BRICS pour le moment occupent la moitié de la population mondiale. Et de plus en plus, je pense que tous les pays non occidentaux vont continuer à se tourner vers les BRICS si les choses se maintiennent comme telles.
Vous avez mentionné un groupe de structures, un groupe d'organismes, en parlant de la Tunisie, qui serait prêt à investir dans ce pays en cas d'un accord avec le FMI. Mais tous ces organismes, ce sont des organisations occidentales, de manière ou d'autre. Mais
absolument.
Qu'en pensez-vous? Est-ce que la montée en puissance des BRICS et ce qu'on appelle du Sud global peut finalement aboutir à la transformation du monde dominé par ces organisations financières occidentales?
Oui, non, je pense que c'est inexorable et le moment c'est maintenant. Le monde a changé. Le monde a changé démographiquement, politiquement, socialement et je pense que il n'est plus question d'avoir un monde unipolaire. Et je pense que ces organisations internationales financières, notamment celle de Bretton Woods, sont obligées de faire leur mieux et de même que les Nations Unies parce que le monde a changé. Nous sommes plus en 1944, lorsque ces organisations ont été créées, et bien en 1945 quand les Nations Unies ont été créées. Donc maintenant, nous sommes dans un monde multipolaire, le monde a changé et il faut être à l'écoute de tout le monde. Je pense que la gouvernance mondiale en elle-même doit changer, qu'elle soit financière, politique ou sociale. Et je pense que toutes les voix devraient être entendu et nous devrions avoir un monde inclusif, c'est-à-dire que avec la participation de tout le monde, que personne ne soit mis au bord de la route et que tout le monde puisse participer aux affaires mondiales.
C'était le docteur Modibo Mao Makalou, économiste et gestionnaire financier malien. Il a donné ses analyses sur la candidature de la Tunisie aux BRICS après l'échec des négociations entre le Fonds monétaire international et Tunis pour un nouveau prêt. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Spoutnik Afrique revient très vite après une courte pause. À tout de suite. De retour à Bamako sur les ondes de Maliba FM. Vous écoutez Spoutnik Afrique et l'émission Zone de Contact, présentée par Anthony Lefebvre. Je vous souhaite la bienvenue si vous venez de régler votre poste de radio sur 99.5 FM. Récemment, la Russie a célébré Youri Gagarin qui était le premier homme à avoir été dans l'espace. Dans le domaine spatial, l'Afrique est également présente. Récemment, le Kenya a lancé son premier satellite dans le cosmos. Développé par des chercheurs kenyans, il doit fournir des données dans les domaines de l'agriculture et de la surveillance de l'environnement. Le Sénégal a également annoncé l'intention de lancer son propre satellite en 2023. Le 29 mars dernier, le Sénégal a créé une agence spatiale et c'est Maram Kaïré qui en a pris la direction. Dans le milieu, l'astronome sénégalais a été honoré par l'Union Astronomique Internationale en 2021. L'organisation a décidé de renommer un astéroïde en son honneur, une grande première pour un Sénégalais. Au micro de Spoutnik Afrique, Maram Kaïré s'est confié sur les perspectives du spatial africain. Écoutons-le.
Sur fond de turbulences dans le monde d'aujourd'hui, on parle beaucoup en Afrique de la nécessité d'assurer la résilience, la stabilité et la souveraineté dans plusieurs domaines. L'Afrique, selon vous, a-t-elle besoin aussi d'une sorte de souveraineté spatiale? Et si oui, comment le continent pourrait se l'assurer?
Le Kenya vient de lancer son satellite et c'est un opérateur privé qui permet de faire ce lancement qui n'est pas africain. La course en ce moment pour être présent dans le spatial ne nous laisse pas trop de temps de voir peut-être développer une solution complète de lanceur alors que nous avons des défis à relever actuellement. Mais dans un futur lointain, peut-être que c'est une question qui sera vraiment pertinente et l'Afrique, toujours dans le cadre de la maîtrise technologique, devra envisager demain de pouvoir disposer de ses propres lanceurs. Au même titre que toutes les nations aujourd'hui qui se définissent comme des nations spatiales, l'Afrique a besoin de cette souveraineté spatiale. Je pense que la question de la souveraineté, c'est un objectif, voire même une nécessité pour l'ensemble des pays qui investissent dans le domaine du spatial. C'est un objectif qui est clairement défini parce que quand vous parlez de satellite, vous parlez tout de suite de prendre de la hauteur et de surplomber donc les territoires. Et bien entendu, c'est des choses qui sont très réglementées. Aujourd'hui, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec la surveillance, avec les satellites et autres. C'est ce qui pousse, bien entendu, à mettre cette question de souveraineté sur la table. Chaque État qui investit dans le spatial aimerait pouvoir avoir la maîtrise sur la surveillance de son territoire, la surveillance de ses ressources minières, et ainsi de suite. Et ça passe par, effectivement, pouvoir avoir la mainmise sur les données, non seulement qui proviennent du secteur spatial, mais également de la technologie qui nous permet d'acquérir ces données. Donc, la question de la souveraineté va se poser forcément pour les pays africains, et c'est tout à fait légitime. Je pense que on a des défis auxquels nous sommes confrontés. La sécurité, on a des zones qui sont des zones très sensibles pour des questions de sécurité. L'Afrique a pour ambition de pouvoir avoir le contrôle sur la surveillance de son territoire. Et ça, c'est tout à fait légitime. Donc, je pense que ça n'enlève en rien maintenant l'aspect ouverture à la coopération, à la collaboration international. Le secteur spatial est devenu un secteur très collaboratif, que ce soit dans l'exploration, que dans le traitement des données acquises, c'est dans la collaboration, la coopération que les choses se font. Aspirer à cette souveraineté ne veut pas dire s'enfermer, ne veut pas dire pas travailler avec les autres, mais ça veut dire tout simplement avoir un certain niveau de contrôle sur les informations qui concernent les territoires africains, et ça, c'est tout à fait normal. La station internationale, elle fonctionne très bien, et c'est pas un pays qui fait tout, c'est une collaboration entre plusieurs nations.
Vous avez a pris la tête de l'Agence nationale des études spatiales au Sénégal. Quel défi se pose aujourd'hui pour votre pays en matière de conquête spatiale?
L'Agence sénégalaise d'études spatiales, ASES, a été créée tout récemment, le 29 mars dernier. Le premier défi qui va se poser, c'est tout simplement le défi de créer une agence spatiale à partir de rien. Aujourd'hui, le Sénégal a une ambition qui est très forte de s'asseoir à la table des grandes nations spatiales. C'est ce qui a amené le président Macky Sall à prendre cette décision de créer cette agence pour mettre en œuvre sa vision sur le secteur spatial. Donc, il se pose le défi déjà de devoir créer cette agence et de la faire fonctionner. Ce défi sera suivi du premier défi immédiat qui concerne tous les pays africains, c'est celui de la présence. Aujourd'hui, l'espace est devenu un enjeu géopolitique, géostratégique important et l'Afrique n'a pas le droit d'être absent. Il faut être présent et c'est ce qui fait que En l'espace d'une vingtaine d'années, nous sommes à plus de 53 satellites qui ont été lancés depuis le continent. Ça veut dire que la prise de conscience, elle est réelle. L'Union africaine aidée à la mise en place de l'Agence spatiale africaine tout récemment, donc qui a été créée en 2018, et l'accord de siège vient d'être signé il y a tout juste un mois donc pour l'Égypte. Ça veut dire que les choses sont en train de prendre de l'ampleur sur le continent et il faut être présent. Au moment où nous discutons du spatial au niveau mondial, il faut que l'Afrique soit présente. Et le Sénégal ambitionne non seulement d'être présent au niveau du continent, mais également de l'être au niveau international. Au niveau de l'AZES, il faudra bien entendu, après la mise en place de l'agence, il faut qu'on arrive à définir très rapidement une politique et une stratégie spatiale qui va s'articuler autour des besoins des populations, donc être au service du population et en même temps être au service de l'État. L'AZES aura pour mission, bien entendu, de coordonner toute l'activité spatiale du Sénégal et ça se fait à travers une feuille de route et un programme clairement défini. Donc nous allons vers l'élaboration d'une stratégie et d'une politique qui nous permettra de définir également notre feuille de route pour les prochaines années. Et au final, il faut qu'on arrive aussi à mettre en place les infrastructures. Quand on parle de spatial, il y a effectivement ce travail qui consiste à explorer au-delà de la Terre, sortir pour explorer donc l'espace, que ce soit à travers des satellites ou des sondes que nous envoyons un peu plus loin. Mais il faut qu'on ait les infrastructures également pour pouvoir exploiter les données qui vont provenir de ces satellites ou de ces sondes. Donc on va travailler à mettre en place les infrastructures nécessaires ici qui nous permettront de renforcer non seulement le capital humain, mais d'assurer également un transfert de compétences technologiques, que ça puisse se faire également sur place grâce à la coopération internationale que nous comptons mettre en place. Et pour finir, par rapport aux missions de cette agence, c'est créer une économie. Parce que le spatial également, c'est une économie. Il faut qu'on arrive à créer une économie autour de ce secteur spatial et contribuer à la mise en place d'un écosystème. C'est favoriser vraiment l'éclosion de start-up, d'industries qui vont travailler dans ce secteur spatial. Et c'est ce qui permettra au final de pouvoir créer cette économie. Il faut que le spatial serve aux populations et à l'État. Et c'est ce que nous allons essayer de mettre en œuvre le plus rapidement possible.
La Russie, actuellement, reste un acteur important dans le domaine de l'espace. Selon vous, quelles perspectives y a-t-il pour la coopération spatiale entre les pays africains et la Russie?
Chaque cas est à étudier. Aujourd'hui, si vous regardez, je parlais de la station internationale, l'ISS. Aujourd'hui, une bonne partie des activités sont partagées avec la Russie. Je pense que c'est des choses qui sont aujourd'hui tout à fait naturelles, vu le passé de ces grandes nations du spatial qui permettent aujourd'hui de pouvoir atteindre les objectifs de façon rapide et efficace. Pour ce qui est de l'Afrique, la coopération internationale, elle est ouverte, je pense, à toutes les puissances. Et c'est chaque pays qui va déterminer, en fonction de ses besoins, le partenaire avec lequel il va travailler. Ce qui est important au final, c'est que ça se fasse dans des partenariats gagnant-gagnant et que chacun puisse trouver son compte dans la collaboration qui se met en place autour du spatial. Mais aucune porte n'est fermée et par essence, je le dis, le spatial, c'est la collaboration. Il faut juste que chaque pays puisse, en fonction de ses objectifs, de ses ambitions, pour définir les partenaires avec lesquels il travaille.
Le 12 avril 1961, le cosmonaute russe Yuri Gagarin est devenu le premier homme à voyager dans l'espace. Que signifie cette date pour vous en tant que professionnel des études spatiales?
C'est une date qui est historique et forcément ça marque en fait les esprits. Ça montrait en fait que tout est envisageable dans le domaine du spatial et ça a ouvert quasiment la porte à tous les rêves les plus fous en se disant que si nous avons pu envoyer un homme dans l'espace, ça veut dire que tout est aujourd'hui possible.
Malheureusement, actuellement, le monde connaît une période vraiment de conflits qui malheureusement se multiplient dans différentes parties de notre planète. Et comme vous l'avez dit vous-même, l'espace, le domaine spatial reste peut-être un des domaines dans lesquels beaucoup de pays continuent de travailler ensemble. Est-ce que vous croyez que l'étude, l'exploration, la conquête de l'espace pourrait quand même contribuer à l'établissement de la paix ou en tout cas à l'apaisement de la situation sur notre planète?
De façon globale, je dirais que l'essence même de l'exploration spatiale, ce serait que l'humanité travaille tous ensemble, main dans la main, pour aller voir ce qui se passe au-delà de notre planète. Et si ça peut contribuer à une paix quelconque, c'est la bienvenue. Mais l'essence du spatial, c'est de travailler ensemble et que l'humanité puisse, au-delà de notre planète, aller explorer d'autres endroits, de notre système solaire et bien au-delà. Et ça, je pense que ça vaut tout l'or du monde. Donc apprenons à travailler ensemble et on continue à explorer notre univers.
C'était Maram Kairé, astronome et directeur de la nouvelle agence sénégalaise d'études spatiales. Il a évoqué au micro de Spoutnik Afrique les défis auxquels son pays et le continent en général font face sur fond de souveraineté spatiale. Il a également indiqué pourquoi il était si important pour l'Afrique de coopérer avec les grandes puissances spatiales, en particulier la Russie. Chers auditeurs de Maliba FM, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement aux commandes d'une nouvelle émission. Je vous invite à suivre l'actualité africaine et internationale sur notre site internet. D'ici là, portez-vous bien.
Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.